Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Robert Filiou.
Comment ça va ce soir ?
Eh bien, ça va pas mal. Je suis très content qu'on procède à cette première enregistrement de DDPR, détaché de presse.
Ça se veut un peu quelque chose d'informel, qu'on espère peut-être régulier, on verra. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est le 7 mars, c'était une semaine sous le signe du féminisme du début à la fin, parce que demain, c'est le 8 mars qui est la journée internationale des luttes féministes.
Il y a une semaine, nos oreilles, elles bourdonnaient parce qu'il y avait eu la cérémonie des Césars, où un certain Roman Polanski avait reçu un César de meilleur réalisateur, c'est ça ? Je sais pas. En tout cas, c'était vraiment la honte. Et il y a eu des réactions assez virulentes, notamment de la part d'Adèle Haenel. Et puis aussi, quelques jours plus tard, il y a eu une tribune de Virginie Despentes qui disait des choses... Non, on va pas vous lire la tribune de Virginie Despentes parce que je pense que vous l'avez toutes et tous vu. Mais il y avait un autre truc qui a été un peu éclipsé par toute cette histoire, c'est le discours d'Aïssa Maïga, auteur de « Noir n'est pas mon métier », qui a largement critiqué la diversité dans l'industrie du cinéma française. Ça, on va vous en passer en extrait.
Bonsoir la famille. En fait, excusez-moi, je vais vous faire une confidence. Ça fait plus de deux décennies que... À chaque fois que je me retrouve comme ça, dans une grande réunion du métier, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Et bon, j'ai toujours pu compter sur les doigts d'une main, en fait, le nombre de noms blancs. Hein. Alors, je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter. Hein, c'est... Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inclusion, elle ne va pas se faire sans vous. Vous tous qui n'êtes pas forcément impactés par les questions liées à l'invisibilité ou aux stéréotypes liés à la couleur de la peau. Donc quand vous allez voir des équipes, des castings monochromes, quand vous êtes dans les instances de décision, je sais qu'il y a des gens qui prennent des décisions ici, quand vous êtes dans les lieux où on décide où vont les financements, pensez inclusion.
Et à l'occasion du 8 mars, eh bien Marianne Grosjean, qui est journaliste à la Tribune, elle a fait une série qui s'appelle « Les féministes dissidentes ». Marianne Grosjean, son truc, c'est la confusion. Elle n'est, écrit-elle, ni chrétienne ni croyante. Mais la foi, dit-elle, la touche énormément. C'est ce qu'elle explique pour justifier le très pénible reportage qu'elle a fait sur le chemin de Compostelle en 2018.
Parfois, j'ai des espèces de petites bulles de bonheur qui remontent et je me dis, mais j'aime tellement ma life.
Elle cause un peu comme ta sœur, Marianne Grosjean, mais dans son cerveau, c'est bien moisi. Depuis trois ans, à l'occasion du 8 mars, elle présente ses idoles, les pseudo-féministes vraiment réac. Et cette semaine, donc, comme l'an dernier, elle ouvre les feux avec Peggy Sastre. Elle la présente comme une journaliste scientifique et philosophe des sciences, mais en fait, Peggy Sastre n'est ni l'une ni l'autre. Plutôt qu'une journaliste scientifique, elle est chroniqueuse au causeur.fr. Est-ce que vous nous diriez un mot du causeur.fr
Je sais pas, c'est de la réaction à l'état pur, c'est un truc très français un peu. Nouveau philosophe plus réaction, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et Elisabeth Lévy.
Peggy Sastre, donc, elle essaye de vulgariser la psychologie évolutionniste. Dans ses livres, Peggy Sastre défend l'idée que les comportements humains sont déterminés par des traits mentaux sélectionnés au cours de l'histoire de l'espèce. Et c'est ainsi qu'on découvre que les hommes ont évolué pour valoriser la fidélité sexuelle, c'est donc une citation chez les femmes, ou encore que le concept hautement scientifique du, je cite, « potin méchant » est l'arme la plus redoutable des femmes. On l'aura compris, toute cette fausse science est remuée pour servir un vrai discours réactionnaire.
Ah, ça fait penser à un psychologue canadien que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Jordan Peterson, qui fait la même chose pour les garçons, qui a écrit un livre qui s'appelle... 12 règles pour la vie ou quelque chose comme ça qui consiste en gros à ranger sa chambre et se tenir droit. Et c'est le plus gros best-seller dans la littérature de self-care pour hommes tout autour du monde. Et malheureusement, actuellement, il est dans un coma artificiel dans une clinique en Russie parce qu'il souffrait d'une addiction aux benzodiapines. Et ben voilà, des fois, quand on donne des leçons aux gens, il nous arrive des choses. D'ailleurs, à propos de leçons, de tout ça, là, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a une grosse épidémie en cours, hein, une épidémie autant médiatique que sanitaire, qui est celle du coronavirus, et qui provoque quelques retournements de situation ironiques, comme l'histoire de la fille de Christophe Blocher, Magdalena Martin-Loup-Blocher, qui s'est pointée avec un beau masque bleu au Conseil national pour suivre la session il y a quelques jours. Elle s'est fait taper sur les doigts par la présidente du Conseil national, Isabelle Moret, qui lui a demandé de retirer son masque pendant la séance du Conseil. Magdalena, elle s'est fâchée, elle a quitté la salle, puis, selon La Liberté, pour Madame Bartolo-Blocher, l'interdiction de porter un masque n'est pas juste, elle va à l'encontre de la liberté individuelle. C'est en position hautement ironique pour celle dont le parti a déposé il n'y a pas si longtemps une initiative anti-burqa et anti-masque, anti-casseur, qui s'appelle « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage » et qui devrait être votée, je crois, l'année prochaine par le peuple.
Oui, on peut dire effectivement que la semaine a été bien occupée par l'actualité du coronavirus, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit. La rédaction de Détaché de presse elle-même a été salement touchée, non pas directement par le virus, on vous rassure, mais par les annulations qui ont fait suite à la décision du Conseil fédéral d'interdire les rassemblements de plus de... On ne sait plus très bien, parce que ça a commencé à 1000, et puis apparemment il y a eu des décisions cantonales un peu plus basses, et puis maintenant on serait autour de 150. Une chose qui fait plaisir quand même, c'est que ça va sûrement nous débarrasser à tout jamais du salon de l'auto. Mais ça n'a pas fait plaisir au directeur adjoint de la Fédération des entreprises romandes qui a, comme on dit en mécanique, pété une durite.
La nouvelle est tombée la semaine dernière. Et si elle n'a pas totalement surpris, elle n'en a pas moins secoué les Genevois. Salon de l'auto annulé pour cause de coronavirus. Que l'on soit fan ou non de voiture, que l'on fréquente ou non cette grande messe, importe peu, tant les répercussions de cette annonce sont importantes. Cela n'a pas empêché les membres de l'autre salon, troupe écolo-burlesque, comme l'a décrit un quotidien local, à chacun sa définition du burlesque, d'enterrer cette manifestation dans une cérémonie factice organisée au cimetière des Rois. Se réjouissant de la mort de cet événement mondialement connu, ses auteurs ont révélé qu'il était tombé de la fièvre verte et féministe. On ne sait pas si les Verts se réjouissent de la pandémie en cours et de ses ravages, mais on peut affirmer sans détour qu'accompagner leur rode au féminisme par du noir désir, groupe dont le chanteur a tué de ses coups sa compagne, est pour le moins douteux. Au-delà de l'outrance de la mise en scène, il convient de rappeler quelques vérités. Tout d'abord, le salon n'est pas mort, n'en déplaise à ses comiques de supermarché. Genève constitue une vitrine mondiale dans ce domaine, comme dans d'autres, et continuera à l'être. Ensuite, ils ont oublié une victime de cette annulation, le canton de Genève, et les 250 millions de francs de recettes qui lui échapperont.
Oui, il faut dire que la Suisse, son économie est quand même beaucoup liée à l'international. Hein. Pour survivre, on aurait besoin que des gens viennent regarder des voitures à Genève. Mais aussi, on a tendance à aller mettre nos nez dans les affaires des autres ou à vouloir que les affaires des autres viennent à nous. Et c'est notamment ce qui se passe avec des choses qui sont sorties ces dernières semaines autour d'une entreprise qui s'appelait Crypto AG, une entreprise qui proposait des machines de chiffrement pour les gouvernements du monde, qui était en fait une entreprise qui, sous ses apparences de bonne entreprise suisse, était contrôlée par la CIA. Et dans ce cadre-là, il y a la VOTS qui essaye de continuer la série et parle d'une autre chose qui est le Club de Berne. C'est quoi le Club de Berne, Jean-Paul ?
Eh bien, Robert, le Club de Berne, d'après la VOTS, c'est un club d'espions européens qui existe depuis une quarantaine d'années et qui se rassemble à Berne pour discuter de trucs d'espions, échanger des informations, etc. C'est une sorte d'international des fouines. Ce qui est plus inquiétant, c'est que cette fine équipe dispose, d'après l'enquête de la VOTS, d'un centre opérationnel, c'est-à-dire d'un endroit où ils peuvent décider d'opérations d'espionnage qu'ils mèneront en commun. Bien sûr, vu que c'est au niveau international, eh bien ces opérations elles se font en dehors de tout mandat démocratique. Alors les espions, c'est déjà louche quand ils agissent sur mandat d'un État, mais quand ils sont complètement en roue libre, comme ça semble être le cas du Club de Berne, ça devient vraiment, vraiment très moche.
En Argentine, il y a un monsieur qui s'appelle Pedro Filippuzzi, qui est ingénieur dans le Swisscom argentin, qui est aussi à ses heures libres un chercheur privé sur le nazisme et l'antisémitisme en Argentine, qui a trouvé récemment une copie originale d'une liste de 12 000 noms de nazis qui, en Argentine, avaient un ou plusieurs comptes, peut-être toujours dormant, auprès du Crédit Suisse. Cette liste, elle se trouvait dans l'ancien local d'une organisation nazie argentine, l'Union Alemania de Gremios, désolé pour l'accent. Du coup, sur la base de cette liste qui a été découverte, il y a le centre Simon Wiesenthal qui a demandé un accès aux archives du Crédit Suisse pour s'assurer que ces comptes ne sont pas encore dormants.
Mais Robert, votre vraie passion de la semaine, ça a été le Super Tuesday, c'est-à-dire la plus grosse concentration de vote pour la primaire de l'élection présidentielle aux USA. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, évidemment, dans l'élection présidentielle elle-même, mais on est dans la phase primaire de cette élection présidentielle. Et actuellement, eh bien, c'est le Parti démocrate qui choisit qui sera son candidat pour la présidentielle.
Ça vient après trois victoires du candidat socialiste autoproclamé Bernie Sanders. Et de l'autre côté, il y avait une victoire de Joe Biden, qui on pourrait décrire comme un centriste sénile. Du coup, il y avait beaucoup de monde au portillon du côté démocrate, 13 candidats, pas moins, dont l'ancien maire milliardaire de New York, Michael Bloomberg. Pour l'establishment du Parti démocrate, la question, c'était de savoir si l'élan de Bernie Sanders pouvait être brisé. Généralement, la messe, elle est dite après le Super Tuesday. On sait qu'il va être candidat démocrate à la présidentielle, mais aujourd'hui, les deux vieux hommes qui se présentent, c'est-à-dire Bernie Sanders et Joe Biden, sont coude à coude au niveau du nombre de délégués qui vont voter pour eux lors de la convention démocrate de cet été. Du coup, la campagne, elle va continuer très fort. Tous les candidats un peu sérieux se sont retirés, généralement au profit de Joe Biden. Mais ce dernier, qui est en rempart de l'establishment contre le tournant socialiste du Parti démocrate, souffre très visiblement d'une démence sénile qui rend assez malaisante certaines de ses prestations publiques ou médiatiques. Derrière son sourire Colgate et ses rides botoxées, c'est la ruine de 20 ans de politique néolibérale, notamment démocrate, qui s'affiche.
Cette semaine amène encore un exemple supplémentaire de l'échec dramatique de la politique migratoire européenne et en particulier de l'accord ignoble entre l'Union européenne et la Turquie, qui laisse à cette dernière le soin de gérer l'accès au territoire de l'Union. En somme, où que l'on regarde, qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse de ce coronavirus, ce sont bien les décombres des politiques néolibérales que l'on aperçoit. Ce qui semble plus certain, en revanche, qu'il y a 10 ans, c'est qu'il n'y a là aucun motif de se réjouir. L'image que nous renvoient ces réfugiés coincés à la frontière gréco-turque aux prises avec les forces armées des deux pays, avec les habitants des îles sur lesquelles on veut les parquer et avec les milices d'extrême droite, c'est la guerre des pauvres contre les pauvres. Cette guerre-là, c'est celle qui pourrait s'ouvrir pour le dernier flacon de solution hydroalcoolique, la dernière boîte de masques, ici, entre nous. Les riches, eux, s'apprêtent à faire sécession.